Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre de Laurent Bacca en 2014 à Toulouse, tué par sa compagne Edith Scaravetti, qui n'a finalement été condamnée qu'à 10 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises ayant retenu que le compagnon était alcoolique, il était toxicomane et qu'il était violent avec elle. Et c'est avec l'avocat d'Edith Scaravetti, maître catalan du barreau de Toulouse, que je vais débriefer cette histoire. Je vous avoue que je suis un peu perplexe devant ce double verdict, d'abord parce que ils sont très différents l'un de l'autre, 3 ans d'un côté, 10 ans de l'autre, et puis surtout parce qu'on est très 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 éloigné de ce qui était à la conclusion de son instruction, la conviction du juge, qui disait qu'elle l'avait abattu comme un chien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette vérité, la sienne, ne s'impose pas?
C'est-à-dire que la justice n'est pas toujours très perspicace. Elle a boursouflé son réquisitoire en prononçant ce mot d'assassinat, personne n'y a cru. C'était à l'évidence une exagération. Ensuite, devant la première cour d'assises, les gens ont considéré, à juste titre à mon avis, que Edith avait été ballottée, la propriété privée d'un homme qui n'était peut-être pas le dernier des derniers, mais qui avait fait une propriété exclusive d'Edith et qu'il avait exploité. Et devant la deuxième cour d'assises, les choses ont été un peu différentes, mais il est constant que les 10 ans passés avec M. Bacca ont été 10 ans de difficultés. C'est le moins qu'on puisse dire.
Donc le juge d'instruction s'est complètement planté dans son appréciation de ce meurtre.
En tous les cas, la justice est formelle, celle qui est chargée de juger. Elle a prononcé d'une façon solennelle le fait qu'il n'y avait absolument pas d'assassinat, que les choses s'étaient passées à huis clos, que ce huis clos était présidé en quelque sorte par une violence exacerbée de Bacca, et que Edith était quelque part victime, sans que pour autant on considère qu'elle était totalement victime, et sans que pour autant elle n'ait pas droit à une punition, mais une punition raisonnable et raisonnée.
Mais est-ce qu'on est sûr de ça, maître Catala, qu'elle était victime? Parce que la famille de Laurent Bacca dit qu'il n'était pas violent.
Oui, mais la famille de Laurent Bacca, qui est composée, je les ai vus à l'audience, de gens très, très convenables, des gens de bonne qualité, aimés par-dessus tout ce garçon, et par voie de conséquence, elle ne s'est pas aperçue du fait que Edith était boursouflée de coups, mais d'autres personnes s'en sont aperçues et ont témoigné à l'audience, et ces témoignages ont été très importants. Et puis il y a cette balle que l'on rencontre, non pas par hasard, mais à la suite d'une déclaration d'Edith dans le matelas conjugal. Il est impossible que ce soit Edith qui ait tiré avec une carabine sur le matelas pour chercher des prétextes. Il y a les lettres qui sont écrites, comme vous le disiez, sur
la fesse. On va y revenir sur tout ça. Pour vous, la vérité se situe où entre les deux verdicts de la première cour d'assises et de la cour d'assises d'appel? La première dit c'est un homicide involontaire, la deuxième dit c'est un homicide volontaire. La première dit 3 ans, la deuxième dit 10 ans. J'ai l'impression que pour vous, la vérité est au milieu.
Mon impression, c'est que ce couple a eu des affreux moments, que ces moments ont été extraordinairement exprimés dans le drame qui a vu la disparition de Bacca, mais que ni l'un ni l'autre ne souhaitaient bien évidemment en arriver là. Ça me paraît évident. La meilleure des démonstrations, elle est tout à fait paradoxale, mais elle est ce qu'elle est. Mais si Edith avait été la personne que l'on peut imaginer, c'est-à-dire machiavélique, organisée, etc., etc., elle aurait pris le corps de son mec, si je puis dire, elle aurait transporté dans la voiture, elle aurait fait disparaître. Oui. Or là, dans le cadre d'une sorte de comportement incompréhensible, c'est-à-dire un comportement assez pathologique, c'est la pathologie du couple, elle va, dans des difficultés incommensurables, garder le mort avec elle pour le placer au-dessus de la chambre des enfants. Avouez que comme cachette, on peut quand même faire mieux. Donc il y a bien évidemment une explication psychologique ou psychiatrique qui a entraîné le comportement de l'un et de l'autre.
Mais si c'est un homicide involontaire, si effectivement il lui dit « Allez, vas-y, appuie !» et puis qu'elle appuie tout en pensant que le fusil n'est pas chargé, c'est donc un homicide involontaire. Mais dans ce cas-là, oui. C'est un accident, on appelle la police. On
met oui, pas, et les on enfants.
Pas, on ne met pas le cadavre au-dessus de leur plumeur, aux gamins.
Quand vous vous êtes battu pendant 10 ans pour que ces enfants ne souffrent pas, quand vous vous êtes battu pendant 10 ans pour mettre ces enfants à l'abri du traumatisme conjugal et des violences conjugales, la première des choses à laquelle pense Edith, c'est « bon, il faut sauver les enfants ». Et pour sauver les enfants, on a une certaine période de déshérence, et il faut le dire de mensonge, où l'on va cacher l'accident. Mais quand les policiers vont arriver, elle va spontanément leur dire « oui,
il est dans le grenier.
J'ai fait ce que j'ai fait ».
Et il est dans le grenier. Ça, pour ça, elle ne se cache pas.
Non, non. Remarquez, le contexte était tel qu'il était difficile de contester. Mais à l'évidence, ça va être un soulagement pour elle et sans doute une explication, car on ne peut pas imaginer qu'une femme parfaitement organisée ait gardé les traces de son crime au-dessus de la chambre.
Maître Catala, pourquoi oui. Est-ce qu'Edith Scaravetti ne divorce pas, tout simplement ?
Mais elle est comme toutes ces femmes qui sont sous emprise, avec un personnage qui considère qu'elle est une propriété taillable et corvéable à merci. Et ces femmes-là, dans ces cas-là, les statistiques le démontrent, ne vont pas d'abord chez les policiers se plaindre, et ensuite elles ne divorcent pas. Quand une femme est sous emprise, elle est dans une tenaille telle qu'elle subit. Et c'est ce qu'a subi Edith pendant 10 ans, sans que ces choses-là soient trop contestées, parce que des témoins sont venus à la barre pour expliquer que, à plusieurs reprises, on l'a vue couverte de coups, pour expliquer qu'elle n'en pouvait plus, mais pour expliquer également, et c'est ça la difficulté, c'est ça le paradoxe, qu'elle était attachée à cet homme.
Mmh. Elle-même ne l'enfonce pas, finalement.
Non, non, puisque devant la cour d'assises, elle a proclamé le fait qu'elle l'aimait, ce que je crois profondément. Elle l'aimait, mais la situation criminogène qui existait entre les deux était telle que ça devait mal se terminer, comme le dit un témoin, ça ne pouvait se terminer que par une catastrophe, et la catastrophe est arrivée. Est-ce que cette catastrophe est une explication facile dans le cadre d'une absence de volonté de tuer ? Je ne crois pas. Je pense qu'elle n'a pas voulu le tuer. Elle était toujours possédée par cet homme, dans le corps et dans l'esprit. La meilleure des démonstrations, c'est que cette possession, elle ne pourra pas s'en défaire, malgré le fait qu'il soit mort, puisqu'elle va le mettre au-dessus de chez elle.
Oui, enfin, maintenant, Maître Catala, pardon, mais il y a une part de monstruosité dans le fait d'aller mettre le cadavre de leur père au-dessus de la chambre des enfants, en leur imposant cette odeur de charogne pendant des jours et des jours et des jours.
Bah, vous savez, le raisonnement rationnel dans une situation aussi dramatique est, j'aurais tendance à dire, assez facile. Cette femme était dans une souffrance exacerbée, elle voulait protéger les enfants, elle était incapable de se détacher de cet homme, bien qu'il soit mort, et d'une façon assez curieuse, mais psychiatriquement explicable, elle a mis le corps près d'elle, au-dessus d'elle. Il n'était pas parti, il était toujours là. D'ailleurs, quand on parlait avec elle, elle parlait de cet homme au présent, comme si il y avait une sorte d'oubli, de déraisonnement de la mémoire et le fait qu'il était toujours là.
Est-ce que vous savez, vous, comment elle a monté ce cadavre dans le grenier à travers cette trappe ? On a du mal à imaginer qu'elle a fait ça seule.
Et effectivement, ça a posé des questions très sérieuses qui ont été d'ailleurs exploitées et analysées. Comment ce petit bout de femme a pu prendre ce corps et le monter au travers de l'escalier qui était une échelle meunière, très difficile. Mmh. On a demandé, parce qu'on était persuadé qu'elle avait raison, que la thèse qu'elle soutenait et qui consistait à dire qu'elle était seule était la vérité, on a demandé à ce qu'il y ait une reconstitution, et effectivement, elle a, compte tenu du poids du mort, elle est arrivée à le faire avec une énergie, une volonté farouche.
Alors les fameuses lettres L et B, dont elle dit qu'elles lui ont été faites au couteau chauffé à blanc par la victime, mais dont un expert dit « Oh là là, c'est pas chauffé à blanc, c'est juste des coups de cutter et c'est illisible », vous les avez vues, vous ?
C'est... Ben bien sûr, il y avait des photos, ça aussi, ça. Quand ces photos ont circulé, les photos de ces lettres sur le corps de cette femme, quand ces photos ont circulé entre les mains du jury, la main s'était dite. On voyait très bien qu'il y avait deux lettres, des initiales de la victime, et on se rendait bien compte qu'il était absolument impossible qu'elle ait pu elle-même se flageller de cette façon. La vérité, c'est qu'il y avait des violences exacerbées pendant 10 ans, que cet homme, qui n'était pas le plus mauvais des hommes, buvait beaucoup, fumait beaucoup, se droguait beaucoup, et que par bouffée, le soir, quand le sac était plein, il y avait des violences, et ces violences se sont mal terminées.
Je suppose qu'elle est sortie de prison, Madame Scaravetti ?
Oui, elle est sortie de prison, et toujours dans une optique qui a toujours été la sienne, extrêmement sacrificielle. Elle travaille et elle élève parfaitement ses enfants qui, fort heureusement, ont été pendant 10 ans à l'abri de ces traumatismes terribles provoqués par le couple.
Vous savez ce que je pense, Maître Catala ? C'est qu'elle a eu de la chance de vous avoir comme avocat, vous.
Vous êtes tout à fait, tout à fait aimable, mais...
Elle aurait pris 30 ans peut-être avec un autre avocat, non ?
Non, j'en suis pas très sûr, parce qu'il y avait une vérité criarde, c'est 10 ans au cours desquels elle a souffert d'une façon incandescente, et c'est la cause du drame, et puis voilà, quoi. Le jury est très sensible à ce genre de choses.
Si vous tuez quelqu'un et que vous êtes à Toulouse, prenez Maître Catala. Merci infiniment. Merci infiniment, Maître Catala.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.